Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans la semaine de la paracha Vaera, la seconde paracha dans le livre, le deuxième livre de la Torah, le livre qui s'appelle Shemot, qui en français on l'appelle l'Exode, que on parle de l'exil égyptien, et ensuite tout ce qui s'est passé pour libérer le peuple d'Israël, et finalement qu'ils ont été libérés. Ensuite, on continue avec leur séjour dans le désert, jusqu'à la mode des dons de la Torah, ensuite les lois et les temples. Donc ça, c'est notre livre, le deuxième livre qu'on est en train de lire dans toutes les communautés juives autour du monde en ce moment. Mais donc, on est dans le deuxième paracha, deuxième partie de ce livre. Que dans notre paracha, on est à la suite de ce qu'il y avait, ce qu'on a lu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a lu dans ce paracha Shemot, il y avait, la Torah nous raconte comment le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Ça, c'était déjà raconté avant, mais la Torah elle répète certains détails qui sont essentiels pour comprendre l'histoire, ou bien pour d'autres raisons. Et ensuite, comment finalement leur séjour est devenu dur, ils sont devenus esclaves, malgré qu'au début ils sont venus comme la famille royale, en fait la famille qui est liée avec Yosef, qui était bien placée en Égypte. Mais avec le temps, ils sont devenus esclaves, et la Torah nous raconte les détails, et ça durait des années, jusqu'à le jour où Hachem se révèle à Moshe, donc Moshe qui est parti, il était obligé de fuir l'Égypte. Des années avant, il s'est marié dans le pays de Midian, là-bas il a fait sa vie, et on trouve Moshe comme berger, il était le berger de son beau-père, jusqu'au jour où il a passé dans l'endroit où finalement ça va devenir le mont Sinaï, le mont, comme la Torah l'appelle, le mont de Elohim, le mont de Dieu. Là, Dieu se révèle à Moshe et lui demande de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et là-bas, on a vu qu'il y a une grande discussion, c'était pas aussi simple que ça. Moshe, il a, je sais pas si on peut dire refuser, mais il a posé des questions. Il n'était pas prêt à aller et il avait des différents arguments. Chaque fois, Dieu, il explique des choses jusqu'à le moment où il n'avait pas le choix et il part à ses voyages. Il retourne en Égypte et là, avec Aaron, son frère, il fait des choses, le peuple croit que le moment est arrivé pour être libéré, qu'ils vont être bientôt libérés. Ils vont chez Pharaon, mais là, la situation s'aggrave, non seulement qu'il libère pas le peuple, mais le contraire, il aggrave la situation en disant, si vous avez le temps de réfléchir à la libération, ça veut dire que vous avez du temps libre, alors on va vous rajouter du travail. Et c'était un travail impossible déjà avant, mais là, c'était très très dur. Et à ce moment-là, à la fin de la paracha, Moshe il revient vers Dieu, il dit « Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu as fait du mal à ton peuple ?» Et dans notre paracha, Dieu il explique des choses à Moshe. Alors, ce que Dieu il explique à Moshe, c'est un petit peu difficile à comprendre. Il y a des paroles, Rashi, il nous propose trois propositions. Qu'est-ce que exactement il est marqué dans ce texte? Mais en tout cas, il y a des explications pour assurer Moshe que maintenant, pour assurer Moshe, que maintenant, ça va aller, ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais les problèmes sont derrière nous. Maintenant, par contre, il y aura ces libérations. Et effectivement, tout de suite après, ça commence les 10 plaies. Dans notre paracha, on parle de 7 plaies. Et ensuite, dans la partie de la semaine prochaine, on va parler encore trois plaies jusqu'à le moment où elles ont été réellement libérées de l'Égypte. Alors, bien sûr qu'on pose des questions sur cette histoire. Tout d'abord, comment ça se fait que Moshe il refuse? Imaginez-vous que Dieu il se révèle à vous. Vous allez l'expliquer, mais vous savez, c'est pas possible. Il y a un grand dilemme, surtout que Moshe, Moïse, c'est pas n'importe qui. Même si dans le film, je sais qu'on le présente comme quelqu'un qui savait pas grand chose sur le judaïsme, mais c'est pas comme ça qu'on nous présente dans l'histoire juive. C'était un homme qui était de très très haut niveau spirituel. Il connaissait bien sa famille, malgré l'histoire qui est un petit peu romantique. Et donc on aime changer donc, dans l'histoire comme c'était présenté dans le film, les différents films. Mais en vérité, c'était un homme de très haut niveau spirituel. Donc ce n'est pas quelqu'un qui d'un coup, il voit quelque chose, il découvre Dieu. C'était quelqu'un qui était vraiment là-dedans, à tel point que son nom porte. Et même si que le nom est basé sur l'histoire, qu'il était sorti de l'eau, mais ça montre aussi son niveau spirituel, qu'il était quelqu'un qui vient d'ailleurs. Comme si, vous voyez, nous on est des personnes plutôt terrestres. Il y a des choses qu'on pratique, il y a des choses qu'on comprend. Il y aura quelqu'un qui vient vers nous, quelqu'un qui a une autre vision du monde. Il est carrément spirituel. On va l'appeler, hein, il vient d'ailleurs, il vient de Vénus, il vient d'une autre planète. La notion de dire qu'il s'appelle Moshe, c'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Il n'est pas d'ici. Donc, ça montre un petit peu ça à un niveau spirituel. Alors, certes, que la fille de Pharaon, lorsqu'elle a donné ses noms, elle a pensé à une autre chose. Mais c'est pas par hasard. Justement, elle a bien trouvé. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé son nom de naissance. Qu'il avait plusieurs noms, comme il est marqué dans le Talmud. Comme parmi les noms, c'était Tov, Tuvia, Yekutiel. Le nom qui montre un petit peu comment il était illuminé. En fait, pas illuminé. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui éclairait autour de lui. C'était une lumière autour de lui. À un moment de sa naissance. Et là, par contre, la fille de Pharaon lui donne un autre nom, que ce nom représente un petit peu différent. Il est sort quelque part, il vient d'ailleurs. Et on l'a sorti de là, on l'a trouvé dans l'eau. Mais nous, on a gardé ce nom parce que ça montre vraiment son identité, que c'est pas seulement quelqu'un qu'il est beau, qu'il est clair, mais c'est quelqu'un qui est carrément d'ailleurs et pourtant il est là. Donc alors ça c'est quelques mots par rapport à Moshe. C'était donc pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui, selon la Kabbale, un homme très très profond. On dit qu'il était le niveau de Chochma, donc l'intelligence par excellence. Et donc c'est pour ça qu'on explique dans le Chassidut qu'il a posé beaucoup de questions. Comme chacun qui est intellectuel, qui pose des questions, il a du mal. Mais quand même, imaginez-vous que Dieu il se révèle à vous et vous savez que c'est Dieu. Et vous allez commencer à lui expliquer, vous savez, telle et telle chose, mais il sait avant vous et pourtant il vous propose. Alors, ensuite, on va poser un petit peu la même question. Ce n'est pas tout à fait la même question. Normalement, on peut imaginer que si Dieu il veut... Il veut sauver, il veut libérer le peuple d'Israël. Il n'a pas besoin de tel et de tel. Il peut trouver des moyens. C'est lui qui a créé le monde. Et là, d'un coup, il attend que Moshe soit d'accord. Et ensuite, une fois que Moshe soit d'accord, ça ne marche pas encore. Comment ça se fait que ça ne marche pas encore? C'est Dieu quand même. Et ensuite, Dieu il a besoin d'expliquer à Moshe pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à là et pourquoi ça va marcher à partir de là. Mais ensuite, ça va être presque une année de plaies, 10 plaies, qui a duré à peu près, chaque plaie à peu près un mois. Ça veut dire 3 semaines que Moshe il a averti, il a parlé de ces plaies qui vont arriver, donc faites attention, etc., libérez le peuple. Et une semaine que ça durait. Encore 3 semaines et 1 semaine. Donc, ça durait à peu près 1 année. Donc, 10 plaies, un petit peu plus pour certaines raisons. En vérité, 9 plaies, parce que la 10e plaie n'a pas duré autant. Donc, ça durait plusieurs mois. Et pourquoi que ça dure tant de temps? Puisque c'est Dieu, il est capable de tout faire, il n'a pas besoin de tous ces processus. Et encore quelque chose, quelle est l'idée de ces 10 plaies? Pourquoi on a besoin de 10 plaies? Pourquoi on n'a pas besoin de 1, 2, 3, 4? Quelle est l'idée? Et tout ça, c'est des choses très basiques dans notre vie, parce que chaque année, le jour de Pessah, on répète l'histoire. Donc, c'est pas comme les autres parties de la Torah que de toute façon on les lit. Mais là, on le répète, on est censé vivre avec l'idée. Vivre avec cette idée, que cette idée va nous expliquer des choses. Donc, alors, on pose pas mal de questions sur cette paracha, les symboliques de cette paracha et pourquoi tant de temps, etc. Alors, il faut dire on dit que une notion de liberté, non liberté, c'est pas seulement physique, c'est aussi, et parfois, surtout psychologique. Donc, il y a quelqu'un qui peut être très très riche, il peut avoir tout ce qu'il a besoin, et pourtant il est malheureux. Il se sent mal, et là on voit dans notre société, malheureusement, des situations dramatiques, et pas forcément et parmi ceux qui ils vont mal, plutôt, parfois, je ne sais pas si c'est aujourd'hui le cas, il y a parfois des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens pour telle et telle raison, mais ça arrive parfois dans les bons, que Dieu préserve, les bonnes familles, et que parfois ils sont riches, et pourtant les enfants ne trouvent pas leur place, et même si ils ont tout ce qu'il faut. Et parfois on trouve le contraire, des gens qui sont pas riches, même pauvres, ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin, et pourtant ils ont une vie joyeuse, ou bien peut-être pas joyeuse, mais en tout cas correcte. Donc alors, ce qu'on voit, que l'idée d'être libre ou non libre, c'est pas forcément matériel, c'est pas forcément physique, et parfois on peut dire le contraire, que le physique peut parfois déranger, c'est plutôt psychologique. Donc, alors, si on est bien au niveau psychologique, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui passent. Et si on est mal au niveau psychologique, alors il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Alors, ici, donc, alors, selon cette vision, il faut comprendre que Dieu, il a créé un monde. Ce monde, il a créé des mondes, des épreuves. Alors, pourquoi Dieu l'a créé comme ça? C'est une autre question. Et peut-être on n'arrive pas, mais ça, c'est clair que le monde, il a été créé avec ses défauts. C'est un monde complet, un monde bien. Mais le bien, on ne le trouve pas facilement. Ça veut dire que, on a, visiblement, il y a beaucoup de problèmes. C'est à nous d'arranger les problèmes. C'est à nous de trouver le bien dans ce monde. Comme ça, Dieu, il a créé le monde. Et ça va pas tout seul. Il faut pas attendre les miracles. Les miracles, c'est seulement pour nous donner un coup de pouce, si on peut dire, pour voir sortir que nous, on sort de nos problèmes. Mais normalement, c'est un monde qui se dirige avec leurs règles dans la nature. À partir de là, donc, il faut comprendre que pour sortir, comme on a dit tout à l'heure, comme pour sortir de ce qu'on appelle ici l'exil, donc il y avait un exil égyptien, il faut faire un travail psychologique. Et pour ce travail psychologique, alors tout d'abord, le libérateur, il doit comprendre des choses. Parce que s'il a des questions, il ne peut pas faire son travail. Puisqu'on a bien dit que ce n'est pas que Dieu il fait les choses et le monde est libéré, c'est une participation. Il faut avoir la participation de celui qui va être libéré et que celui qui libère, il soit libéré. Et celui qui libère, et celui qui va être libéré, alors il faut que celui qui va être libéré, il va participer. On trouve dans le monde aussi de psychiatrie, ou bien dans d'autres domaines autour de ça, qu'il faut que les patients ils participent. S'ils participent pas, alors on peut pas faire des miracles. Donc, d'une part, il y a des médicaments, des différentes choses qu'on fait, mais d'une autre part, il faut que la personne concernée soit active. À ce moment-là, avec les deux efforts de l'un et de l'autre, on peut se sortir. Là aussi, pour sortir de l'Égypte, que d'ailleurs la sortie de l'Égypte, c'était une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, mais en quelque part, cette idée, c'est une histoire mère pour ce qui va se passer après. On est dans un monde où il y a des exils, il y a des libérations, il y a des problèmes, il y a des solutions. Et pour comment on sort des problèmes vers une solution, on prend l'exemple justement de la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte, c'était avant, mais à partir de là, dans notre vie quotidienne, on passe des moments difficiles. Et l'exemple de la sortie de l'Égypte, ça devient un exemple pour nous, pour savoir quoi faire, comment faire, pour pouvoir sortir. Donc on utilise les mêmes méthodes, et pas seulement pour la sortie de l'Égypte, les situations dramatiques, pour toute situation. Il y a ce qu'on dit dans la Chassidut, que l'Égypte, le mot en hébreu, c'est Mitzrayim. Donc, Mitzrayim, ça veut dire, comme le mot Mitzar, ça veut dire étroitesse, quelqu'un qui se trouve dans une situation d'étroitesse, donc il n'a pas de largeur, au niveau, en tout niveau, encore une fois, au matériel, au spirituel, au psychologique. Et l'idée, c'est sortir de cette étroitesse pour arriver à la largeur. Et ça, c'est la notion de la sortie de l'Égypte. Donc ça, c'est vrai dans toute situation. Chacun, il sait qu'il y a des moments et il y a des moments dans sa vie. Et le message de la sortie de l'Égypte, c'est savoir sortir. Et donc, là aussi, on prend l'exemple de cette histoire de la sortie de l'Égypte pour pouvoir sortir de notre propre Égypte, ou bien au niveau matériel, ou bien au niveau spirituel. Alors, puisque c'est comme ça, donc on a dit que la sortie d'une situation, c'est aussi sortie psychologique. Donc, alors, il faut avoir des explications. Le libérateur, donc, celui qui est le libérateur, c'est Dieu, bien sûr. Mais pour que la libération fonctionne, il faut que ça passe par Moshe. Donc, Moshe doit être libéré au niveau psychologique. Il doit avoir des réponses sur sa question. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas dit à Moshe, va, c'est tout. Fais-moi confiance. Non, Dieu, il a expliqué. Il a expliqué toutes ces questions de Moshe. Seulement qu'à la fin, il dit, maintenant, va. Ça veut dire quelque part, maintenant, tu as assez de bagages. Des questions, on peut poser toujours. On peut, dans le monde intellectuel, on peut poser des questions. On ne va jamais arriver au bout. Au moment où on va dire tout va bien, parce que c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Le monde, il a été créé par la force infinie. Donc, ce qui a été créé, c'est le fini. Mais puisqu'il a été créé par l'infini, donc toujours, il y a quelque chose, il y a quelque chose à découvrir jusqu'à l'infini. Donc, alors, de toute façon, ce qu'on va faire, on va avoir toujours des questions, on va avoir toujours là où on n'a pas pénétré. C'est comme ça que ça doit être. Donc, à un moment donné, même si Dieu il explique tout à Moshe, mais à un moment donné, il y a stop, maintenant tu vas, comme il est marqué dans la parasha de la semaine dernière. Mais après tout, Moshe, finalement, il va, il est engagé, plus qu'engagé, et à ce moment-là, ça va pas encore. Non seulement que la situation n'arrange pas, le contraire, la situation s'aggrave, comme on a dit tout à l'heure, que Pharaon, il dit, si vous avez le temps de réfléchir, ça veut dire que vous travaillez pas assez. Normalement, quelqu'un qui travaille, il a pas le temps de réfléchir, il travaille. Et là, vous avez le temps de réfléchir, ça veut dire que vous avez le temps libre, donc on va remplir cet temps libre. En vérité, c'était pas vrai. Mais c'est ça que la Torah nous raconte à la fin de cette paracha. Donc à ce moment, Moshe, il est très malheureux, il dit, mais pourquoi tu m'envoyais pour faire pire? Et à ce moment-là, dans notre paracha, Dieu, il explique pas mal de choses à Moshe, et c'est très intéressant. Et parmi les choses que Dieu explique, si on peut dire, et d'ailleurs tout le monde sait que le soir de Pessah, on a l'habitude de boire 4 verres de vin, et ces 4 verres de vin nous accompagnent dans tout le soir de Pessah. Seulement que le premier verre de vin, il accompagne le kiddush, donc La fameuse kiddush qu'on fait tous les Shabbat et tous les fêtes, on prend les verres dans la main, on prononce ces mots qui s'appellent kiddush. Et ensuite, le deuxième vers nous accompagne dans l'histoire, quand on raconte l'histoire de l'Agada. Le troisième vers nous accompagne quand on fait Berkat Hamazon, donc on fait la bénédiction de grâce à la fin du repas de soir de Pessah. Et le quatrième vers nous accompagne lorsqu'on fait des louanges à Dieu à la fin de ce seder. Et il est marqué que ces quatre vers, parmi les explications, ce qu'on retient surtout, ils sont liés avec les quatre manières qu'il est marqué dans notre paracha, que Dieu il annonce à Moshe la libération. Donc après que Moshe il a posé la question, pourquoi tu as fait du mal, et Dieu il explique pas mal de choses à Moshe. Et ensuite, il dit... Maintenant, tu peux dire la chaîne et le ministre. C'est pour ça, pour toutes ces raisons que je viens de t'expliquer, dire au peuple d'Israël que je suis Dieu. C'est intéressant que ça veut dire comme si quelqu'un dit, tu peux compter sur moi, je suis ce que je suis. Donc, alors, même si que jusque-là, ça n'était pas réalisé, mais maintenant, tu peux compter sur moi. Donc, je vais vous sortir de la souffrance égyptienne. Je vais vous libérer de leur travail. Je vais vous sauver de leur travail. Je vais vous libérer avec la main forte et je vais vous amener et je vais vous prendre en charge comme un peuple. Alors là, c'est expliqué quelque part que c'est effectivement quatre niveaux dans le processus de la liberté. Pour être libéré, ça ne suffit pas, comme on a dit tout à l'heure, une notion physique. Il faut parfois avoir quatre niveaux pour être libéré. Alors tout d'abord, au niveau de l'histoire, il y avait effectivement quatre niveaux dans la libération. Tout d'abord, Dieu il a sorti de la souffrance, mais l'esclavage était encore là, mais c'était sans souffrir, en tout cas sans trop souffrir, parce que d'un coup... Depuis le début des plaies égyptiennes, la souffrance était moins importante. Il y avait toujours le travail, mais ce n'était pas comme avant, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de menaces, avec beaucoup de frappes. Ensuite, ils ont carrément arrêté de travailler en Égypte, et pourtant, ils ont resté encore quelques mois en Égypte. Et ensuite, ils ont sorti de l'Égypte. Et ensuite, il y avait le don de la Torah. Alors, le don de la Torah, c'est... important dans la libération et dans la liberté. Et comme l'exemple qu'on peut donner, et qu'une liberté, aujourd'hui on parle beaucoup de liberté. Qu'est-ce que c'est liberté? Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais depuis très longtemps on parle de liberté. Un homme libre, quelqu'un de libre, qu'est-ce que c'est la liberté? Liberté, quelqu'un qui était en prison, maintenant il est sorti de prison. Est-ce qu'il est libre? Alors ça dépend. S'il était en prison pour une raison que c'était pas de sa faute, alors peut-être oui, il est maintenant libre. Mais si c'était de sa faute qu'il est en prison parce que il a une faiblesse de voler ou il a d'autres faiblesses, donc c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Alors, même une fois qu'il est sorti de prison, il est pas libre parce qu'il va recommencer. La même raison qu'il a fait avant, il est toujours là. C'est possible qu'il va arrêter de le faire parce qu'il a compris par le chemin dur, mais après tout, pourquoi il a volé? Parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'il n'a pas compris qu'il y a une notion de propriété, que chacun a ses affaires, que l'autre ne doit pas toucher, ou bien il n'a pas compris d'autres choses. Alors, une fois qu'il est sorti de prison, mais puisque le problème n'était pas arrangé, alors il va revenir au même niveau et donc il va se retrouver à nouveau en prison. Donc qu'est-ce qu'on a arrangé? Ça veut dire que même si on a arrivé à libérer quelqu'un au niveau physique, c'est pas forcément qu'il était libéré réellement. Pour être libéré réellement, alors il faut le prendre en charge. Alors quelque part, les peuples juifs, ils sont en Égypte. C'est une liberté, mais c'est une liberté relative. Il arrête de travailler, mais c'est une liberté relative. Mais la vraie liberté, c'est quand Dieu nous a pris en charge, il nous a donné la Torah, il nous a remplis d'esprit et de devoirs. À ce moment-là, on est libre. Parce que d'un coup, comme on a dit tout à l'heure, non, le judaïsme, c'est pas vraiment une liberté. Parce qu'on nous donne beaucoup de devoirs. En fait, si, ne faites pas ça. Et le judaïsme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile. Mais celui qui se trouve à l'intérieur, il trouve des goûts. Le judaïsme, au contraire, il dit, est-ce qu'on peut nous rajouter encore? Ça ne suffit pas. Comme l'exemple, quand donc quelqu'un qui est, et on lui a donné à porter une caisse de diamants. Alors, c'est lourd, mais il porte. Alors, quelqu'un d'autre, il a dit, si c'est trop lourd, je peux prendre pour vous. En fait, pas pour vous, donnez-moi. Lui, il dit, non, donne-moi encore une caisse. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses lourdes, mais qui pèsent. Mais en fait, c'est de la richesse. Comme un sportif qui va courir, et ça va lui faire plaisir. Le judaïsme, que c'est, d'une part, c'est une sorte d'esclavage, mais c'est un esclavage positif qui libère. Alors, c'est ça un petit peu les quatre niveaux dans la liberté. Donc, on est libre une fois, mais c'est un travail de, quelque part psychologique long. Et aussi, il y a le diplé qui arrive après. Le diplé aussi, c'est un travail psychologique. Ça veut dire que là aussi, on n'aura pas le temps de voir tout, mais d'une façon plus globale, l'idée, c'est que, il est marqué comme ça, pourquoi, à quoi sert le diplé de l'Égypte? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'il y avait une notion de souffrance, de punition. Ils ont fait couler beaucoup de sang, alors quelque part, ils ont bu ce sang, en fait. L'eau est devenue sang. Mais il y avait une autre notion. Donc, il y avait la notion de punition, mais il y avait aussi et surtout une notion d'apprentissage. Ça veut dire que pourquoi arrivent tous ces problèmes? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Pourquoi il y a des dictateurs dans le monde? Parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Et si on veut avoir un monde mieux, il y a des choses à comprendre. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a Dieu, qu'il y a un projet. Et si on va suivre le projet de Dieu, alors le monde, il va être mieux. Donc, alors ici, dans les diplômes, on trouve une notion d'apprentissage pour les Égyptiens et ensuite pour les peuples juifs. Et les peuples juifs, on veut bien que le monde entier l'utilise. Mais le peuple juif, il utilise ça. Il utilise ça chaque année au moment de la fête de Pessah. Pour quand on lit le diplé, c'est pas seulement pour raconter une histoire, pour apprendre le message. Alors, d'une façon très générale, donc là, je vais faire court, il y avait Dieu, il voulait prouver à Pharaon qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qu'il dirige la nature, qu'il peut changer la nature qu'il peut changer les choses naturelles, mais aussi et surtout que la nature comme elle est, ça veut dire avec ses règles, Dieu il dirige sa nature. Et petit à petit, on voit que Pharaon, alors encore, on n'aura pas le temps de voir, mais c'est intéressant que dans le diplé, chaque fois, il avance un petit peu dans sa réflexion, mais il est toujours pas prêt à libérer le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on voit, et ça aussi, ça donne, si on l'utilise pour notre vie quotidienne, il faut avoir de la patience pour changer des personnes, et pour changer, si on travaille avec quelqu'un qu'on essaye de lui expliquer des choses, il ne comprend pas, il faut être patient. Et chaque fois, on avance un petit peu. Donc, pour nous-mêmes, pour tous ceux qui s'occupent de la psychologie, au début, on a l'impression qu'on est devant un mur, mais avec de patience, étape par étape, on va changer des choses, on peut changer pas mal de choses. En tout cas, par rapport à ce qui nous concerne à la sortie de l'Égypte, tout d'abord, Dieu il montre, par Moshe, qu'ils ont une force spirituelle. Et ensuite, que cette force spirituelle, c'est pas une force comme celle de l'Égypte, qu'ils ont eu aussi accès à ces forces hors nature, ce que s'appelle la magie, que certaines pensent que ça existe, certaines pensent qu'il n'existe pas, mais en tout cas, c'est un sujet à part. Même si ça existe, il a montré tout d'abord que nous, on est supérieurs, la force divine est supérieure à la force, c'était connu par l'Égypte, et étape par étape, il montre que c'est pas la magie, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. On va passer, mais alors, lorsque Paro il commence à voir, à croire et à voir sur la divinité, il doit comprendre deux choses, trois choses, mais on va parler de deux choses. Tout d'abord, voir le fait même que Dieu il change la nature, c'est que avec des forces magie, même dans la magie, ils ont une certaine logique. Mais la logique est arrivée jusqu'à un certain niveau, ce qu'on peut faire. À un moment donné, on s'est dit non, ça c'est plus la force de la magie, ça c'est plutôt une notion etzba elokim, donc c'est une notion divine. Mais ensuite, donc tout d'abord, les premiers plaies sont liés avec le changement de la nature a changé. Et d'ailleurs, chaque plaie a son identité, exactement, pas seulement l'idée générale de montrer à Pharaon qu'il y a un dieu et qu'il change la nature, mais chaque plaie a son identité, comme il est marqué dans les différents ce qui explique la Torah. Mais en plus de ça, il y avait une autre idée, que même des choses naturelles, comme les bêtes sauvages qui arrivent, alors lorsqu'il arrive, il arrive dans des adresses concrètes, et ils n'arrivent pas dans d'autres endroits. Ou bien il y a d'autres plaies qui sont arrivées ici et ils ne sont pas arrivés là-bas. Et ce qui est très étonnant, donc alors on n'est pas dans les miracles vraiment, parce que ce n'est pas un miracle que des bêtes sauvages arrivent ou bien les autres plaies de ces natures. Mais ce qui est intéressant, qu'ils savent où arriver, à quel moment arriver, comment arriver. Donc alors ici, dans les 10 plaies, c'était vraiment une année d'éducation, rééducation des peuples égyptiens d'une part, de comprendre comment le monde fonctionne pour qu'il change, et pour les peuples juifs qui vont devenir les peuples juifs, et pour ça, ils doivent savoir pas mal de choses. Donc alors si on reprend de ça pour notre vie, la vie, la vraie vie qu'elle est bien, c'est tout d'abord qu'on comprenne la vie. Et pour comprendre la vie, on n'a pas le choix, ou le contraire, c'est pas parce qu'on n'a pas le choix. Il y a un Dieu dans le monde qui dirige dans le monde, et on peut le voir dans les différentes choses qui nous arrivent dans tous les jours, et c'est ça. Mais, c'est pas de façon de plaie, mais en fait, on peut voir Dieu dans notre vie. Et à partir de là, quand on commence à voir réellement ce qui se passe dans le monde, et comprendre ce qu'il faut, passe dans le monde, et faire à ce moment-là le nécessaire, c'est là où on reçoit notre liberté. En tout cas, puisqu'on est dans une période où autour de nous, il se passe aussi, encore une fois des choses qu'on parle d'une notion d'exil et de liberté autour de nous, et ce qui se passe par-ci et par-là, et on se demande pourquoi ça ne s'arrête pas. En tout cas, c'est le moment à nouveau repenser à notre histoire et espérer effectivement que le monde il soit, que tout le monde soit libre. Mais la vraie liberté, c'est lorsque, pas seulement quand on est libre, c'est quand on remplit notre vie avec des contenus. Et donc, puisqu'on est dans cette période qu'à nouveau on voit une notion de liberté, d'exil et de liberté, on souhaite que le monde il soit en paix. Et le monde qui soit en paix, c'est l'espoir messianique, justement. Qu'à ce moment-là, la paix dépend de cet esprit psychologique. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre qui fait le monde, qui a fait le monde, qui dirige le monde, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde. À ce moment-là, on a une idée, à ce moment-là, c'est ça qui va cesser tous les problèmes, toutes les guerres, et c'est ça qui nous amène à un monde de paix, à un monde positif, où tous les peuples vont vivre en paix, le monde de Mashiach. Merci pour votre écoute, et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 93.1. sur le 97.1.